Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Et la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette saison 3 de Parlez-moi d'IA. Pour cette rentrée, on va se pencher sur les mises en œuvre de l'IA dans les collectivités locales, avec le témoignage de plusieurs d'entre elles qui vont nous partager leur méthodologie de test et de déploiement. On commence aujourd'hui avec Anne-Masse, qui semble particulièrement intéressée par l'open source. Alors accordez-vous une bonne demi-heure, hein, il faut au moins ça pour ce sujet, pour interroger une nouvelle fois le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, techniques, politiques et territoriaux.
Cause commune, 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, toujours, cause-commune-au-singulier.fm, sur la bande FM à Paris 93.1 et sur le DAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. On va remercier Olivier Gréco, notre infatigable directeur d'antenne qui nous permet cet espace de liberté. Bon, nous avons besoin de vous et de quelques petits gestes pour vous, hein, mais qui ont un impact énorme pour nous. Usez de vos super pouvoirs sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Ça paraît rien, mais c'est notre seule récompense et ça nous fait connaître parce que ça manipule les algorithmes et...
C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Cet épisode est réalisé en partenariat avec l'AFNOR dans le cadre de son livre blanc IA et collectivités territoriales qui fait le point sur les stratégies et les méthodes afin de déployer une démarche IA au sein de l'organisation. Vous pouvez retrouver le lien de cette initiative dans la description de cette émission. Donc nous commençons cette troisième saison avec une agglomération de taille moyenne, on va faire un peu les caractéristiques de cette agglomération, qui ne manque pas d'idées et d'énergie. Il s'agit de l'agglomération d'Anne-Masse. Donc l'idée globale de cette série d'émissions, c'est de vous donner envie de vous plonger dans une aventure IA, similaire à ces collectivités territoriales, ou dans votre organisation aussi, ça peut être aussi une organisation privée, hein, parce que du coup, dans une entreprise, dans une collectivité, il y a quand même beaucoup les mêmes problématiques. Nos invités vont nous partager leur méthodologie, leurs étapes, leurs doutes, leurs aventures humaines, leurs résultats bien sûr. Et on commence avec le DIRCOM, le DIRCOM qui fait de l'IA, à Anne-Masse. Bonjour Jean-Marc Bourredon.
Bonjour Jean-Philippe Clément, merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous, donc on est à distance, hein, ça s'entend un petit peu. Alors, parlez-moi d'IA, Jean-Marc. On va commencer par le commencement. On va s'intéresser à votre profil, finalement, à vos débuts dans l'IA. C'est quoi, finalement, votre formation ? J'ai dit que vous étiez DIRCOM, mais c'est quoi votre parcours de formation pour qu'on connaisse un petit peu mieux, finalement, votre background d'accès à l'IA ?
Alors oui, moi j'ai un double parcours universitaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je m'occupe un petit peu d'IA dans ma collectivité. Je suis à la fois un littéraire, j'ai fait des études de lettres modernes, et j'ai à la fois aussi un master en mathématiques et informatique appliqué aux sciences sociales. Et du coup, j'ai eu codé il y a 25 ans des choses en lien avec le traitement automatique des langues, qui est une des briques en fait hein, de l'intelligence artificielle générative.
Vous êtes un hybride du langage, en fait, c'est ça ?
Oui, ouais, tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le langage, que ce soit le langage naturel ou le langage informatique, et du coup, l'IA fait une super synthèse entre les deux.
Et alors, comment vous êtes lancé dans l'IA à Anne-Masse ? Comment ça s'est passé, en fait ? C'est quoi la première étape et comment vous avez fait ?
La première étape, c'est que on a monté des groupes de travail et on s'est rapidement rendu compte que la gestion de projet classique qui nécessite d'avoir une vision plutôt à moyen long terme ne fonctionnerait pas avec l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que ça bouge tellement vite, c'est de jour en jour, voilà, les choses sont tellement mouvantes qu'on s'est rendu compte que ça serait impossible d'avoir une feuille de route. Donc on a vite laissé tomber des groupes de travail qui n'avançaient pas.
Ouais.
Et on a créé une petite équipe pluridisciplinaire et on a la chance dans ma collectivité d'avoir quelqu'un qui est certifié Scrum Master. Et donc on s'est dit, mais pourquoi on travaillerait pas avec une méthode de projet agile qui est la méthode de projet Scrum.
D'accord.
Et du coup, on fonctionne maintenant via des sprints d'un mois sur l'intelligence artificielle, ce qui nous permet d'être beaucoup plus agile et de construire une feuille de route en fait partir de ces sprints.
D'accord. En termes projet, au lieu de commencer par un cahier des charges qui va donner lieu à un développement et donc à un résultat, et donc vraiment des trucs très linéaires, peut-être très longs aussi, et puis avec des choses qui bougent, vous avez préféré faire des petits tests d'un mois, vous vérifiez si ça fonctionne et continuer à incrémenter par-dessus, c'est ça hein?
Exactement, voilà, ouais, c'est vraiment ça, c'est la notion d'incrément. Et quand on a commencé, on avait une visibilité à un mois. Ouais. Là maintenant, je commence à avoir une visibilité sur 6 mois, voire même 1 an. Ça y est, je commence à avoir sur plusieurs sprints un peu de visibilité, mais c'est parce qu'on a justement incrémenté et ajouté de la valeur sprint après sprint. Sur le sujet.
Ça ouvre les perspectives au fur et à mesure, en tout cas.
Exactement.
C'est quoi finalement les thématiques ou les façons d'aborder ces différents sprints? Comment c'est structuré aujourd'hui, si vous deviez nous en détailler quelques-uns? Ouais.
Bah aujourd'hui, on a 3 grands piliers de travail sur l'IA. On a d'une part la gouvernance et la formation, l'accompagnement en fait autour de ce sujet des agents.
Ça, on y reviendra volontiers après, effectivement.
Ouais. On a le sujet qui est l'IA générative pour tous, via des outils de type chatbot.
Ouais.
Et puis on a le troisième pilier qui est l'IA spécialisée, où là, on travaille sur des choses un peu plus métiers, un peu plus de niche en fait. Ouais.
Donc il y a une IA, enfin il y a une partie de votre un de vos piliers, c'est finalement cette IA générative, c'est comment l'utiliser pour finalement améliorer le travail au quotidien, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et puis aussi, on s'est vite rendu compte, on a questionné les agents, on a fait des séminaires où il y a eu beaucoup de monde qui est venu. On s'est vite rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle le shadow IA, c'est-à-dire un usage des outils type ChatGPT ou Claude en version gratuite, sans forcément que les agents en parlent ou le disent. Je crois que c'est un phénomène qui est très courant dans les entreprises. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on s'empare de l'IA générative et des chatbots pour proposer une solution.
Le buzz est tellement grand qu'effectivement, les gens ils s'y mettent quoi qu'il arrive. Mais par contre, du coup, dans l'organisation, c'était pas structuré. Et alors, du coup, comment vous avez structuré les choses? Est-ce que vous avez finalement un grand patron, un grand sponsor qui vous aide, qui vous appuie dans la démarche?
Oui.
Et puis après, comment vous avez structuré?
Dans le cadre de notre gouvernance, on a mis en place ce qu'on a appelé un comité de surveillance de l'intelligence artificielle, qui est composé des directions générales de la ville et de l'agglo, parce que c'est une démarche mutualisée entre la ville, centre et l'agglomération. Et donc, nous avons les directeurs généraux des services et adjoints que l'on voit une fois par mois à chaque fin de sprint. Et c'est eux en fait qui valident ce que l'on fait, et c'est eux aussi qui nous passent parfois des commandes un peu spécifiques pour les sprints à venir. Donc on est vraiment connecté à la direction générale des services, et l'IA, on a fait un sujet de gouvernance en fait, global, plus qu'un sujet technique.
Et c'est votre conseil des sages un petit peu, c'est-à-dire qu'à la fois vous lui reportez, et à la fois c'est lui qui vous donne un peu des orientations.
Exactement, tout à fait. J'ai eu mon comité de surveillance pas plus tard qu'hier, où on a eu une nouvelle commande de la part d'une directrice générale adjointe. Donc c'est très intéressant parce qu'on est connecté vraiment aux décideurs. Quoi.
Et la commande, par exemple, c'est quoi? C'est quelque chose de très... C'est dans l'actualité, ou c'est quelque chose qui, au contraire, est un sujet de fond qu'ils n'arrivent pas à craquer? Comment ça se passe?
La commande, là, très, très précisément, c'est... on a mis en place en fait un chatbot pour les agents dont on parlera peut-être tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Et la commande en fait de la part de la directrice générale adjointe, c'est de mieux connaître un petit peu les cas d'usage, comment utilisent aujourd'hui les agents, comment ils utilisent ce chatbot, quel type de prompt ils font en fait. Et donc là, il va falloir qu'on développe un tableau de bord. Pour essayer de faire remonter un petit peu les usages et les cas d'usage.
Et en parallèle, on vous parlait de Shadow IA, est-ce que vous monitorez un petit peu les usages parallèles? Est-ce que vous regardez le nombre de fois où ChatGPT est appelé depuis le réseau de la collectivité?
Alors, non, ça on le fait pas, parce que l'une des valeurs cardinales de nos collectivités, c'est la confiance.
D'accord.
Et donc du coup, on n'interdit rien. Mmh. On recommande d'utiliser plutôt Mistral et Claude en version gratuite pour ceux qui n'utilisent pas notre chatbot interne pour l'instant.
D'accord.
Mais à terme, l'objectif, c'est qu'ils utilisent notre chatbot interne et qu'on fasse de la pédagogie, de l'accompagnement. Mais on fait pas de tracking, on n'essaye pas de savoir s'ils utilisent ou pas ChatGPT comme ça en gratuit, parce que bah, je pense que on préfère se concentrer sur le développement de produits, en fait, plutôt que sur la surveillance.
Et du coup, là, vous parliez de recommandations. Souvent, dans les organisations privées, moi, j'ai entendu le conseil de base pour débuter une démarche, c'est peut-être la phase de définition d'une charte d'usage des outils IA au sein de l'organisation. Est-ce que vous avez eu le même type de démarche au sein de votre collectivité? Est-ce que vous êtes dit, bon, ben, première étape, allez, on va se fixer les règles, on va créer la charte, on va la partager. Comment vous avez fait, vous, de votre côté?
Eh bien oui, ça a fait l'objet d'un sprint, voire même de deux sprints en début d'année, où l'une des premières choses qu'on a mis en place, et d'ailleurs au sein de notre cellule, on a la DPO et qui donc s'est emparée du sujet, et on a mis en place, on a rédigé une charte éthique en fait de l'usage de l'intelligence artificielle au sein de notre collectivité. Donc aujourd'hui, elle est rédigée. C'est un projet qui a été vu par les DGS dans le comité de surveillance. Elle est accessible en interne par tous les agents. Elle n'a pas encore été présentée aux organisations syndicales ni aux élus, mais c'est prévu. On va être, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Mais
c'est d'accord. Prévu. Oui, donc ça, c'est un peu la particularité aussi des collectivités, c'est que ce travail, parfois un peu de transformation des méthodes et outils de travail, il est présenté plus spécifiquement aux organisations syndicales. Vous, pour l'instant, elles sont au courant de la démarche, mais vous n'êtes pas allé spécifiquement leur présenter les résultats ou ce que ça pourrait donner dans un déploiement plus large.
Non, pour l'instant, on estime qu'on est encore trop dans les expérimentations.
Oui, vous ne sauriez pas quoi leur présenter, quoi, en fait. Enfin, vous sauriez pas.
Voilà. Oui, tout à fait.
D'accord. Et du coup, là, quand vous essayez de créer ces différents piliers d'organisation, finalement, vous me disiez en préparant cette émission que vous aviez, vis-à-vis de de l'IA, ces trois grands piliers que vous avez évoqués, et du coup, sur le pilier IA générative, vous vous organisez par sprint, mais vraiment, ça vient du terrain, quoi. Il y a personne qui dit, c'est des opportunités. Là, vous parliez de la DG qui vous demande effectivement de mieux comprendre quelque chose de très précis et de très concret. Comment ça vient au-delà du conseil des sages? Est-ce qu'il y a aussi des initiatives qui viennent du terrain où on vous dit, j'aimerais bien travailler là-dessus, sur ça. Est-ce que tu peux m'aider, Jean-Marc?
Oui. Oui, oui, là, ça, on a deux demandes. Alors, c'est plus, du coup, ça devient plus de l'IA spécialisée pour le coup. Voilà. Donc, on a des demandes d'agents qui essayent avec l'intelligence artificielle générative. Par exemple, je vais prendre un exemple. Ils essayent d'organiser de la planification de leurs équipes.
Oui.
Et rapidement, bah, ils se heurtent un petit peu aux limites d'un Claude ou d'un Mistral qui hallucine ou qui, voilà. Et ça, au bout d'un moment, ils s'épuisent. Et donc, on a adopté une autre approche par rapport à ce type de demande un peu spécifique.
Ouais.
On s'est dit, tu veux faire de la planification pour ton équipe, tu as des règles métiers qui s'appliquent. Bah, plutôt que d'aller dans un chatbot et de lui donner tout ça en lui demandant de faire le planning, on va plutôt aller dans un chatbot et lui demander de coder une application maison, voilà, qui va te permettre ensuite de pouvoir faire ta planification.
C'est vrai que c'est un vrai sujet, la planification. Là, vous l'avez abordé effectivement sur cet aspect coding au lieu de l'aborder directement dans le chatbot en espérant que en mettant tous les ingrédients, ça allait sortir le planning de la semaine. Et alors, du coup, vous avez réussi à coder l'application qui tue.
Alors, aujourd'hui, on a un chef de service qui gère des travailleurs sociaux qui a beaucoup de règles métiers avec plein de contraintes, voilà, et qui veut que ça tourne en plus, que ses agents ne soient pas toujours sur les mêmes fonctions, les mêmes tâches de semaine en semaine. Et donc, on a effectivement intégré, formalisé toutes les règles métiers. Et après, on a fait du vibe coding, avec des outils spécialisés.
Faut traduire. Le vibe coding, c'est le code généré par l'IA, et comme une vague qui se fait tout seul, en fait, qui se crée tout seul. On demande ce qu'on veut et l'IA crée le code, on devient développeur. Donc votre collègue, il est devenu développeur?
Alors non, notre collègue, lui, c'était vraiment notre client.
Oui.
Et c'est nous, via notre cellule dédiée à l'intelligence artificielle, qui avons travaillé avec l'IA pour coder. Donc ça reste une compétence, voilà, de niche, hein, bien entendu.
Bien sûr.
Mais le potentiel, il est vraiment intéressant. Et moi, j'ai montré au DG et puis au CODIR dans ma collectivité ce planificateur qu'on a fait. Ça a suscité beaucoup de questionnements en fait, et beaucoup d'intérêt.
Bien sûr.
Voilà. Donc voilà le type de demandes qu'on peut avoir qui sont plus du l'IA spécialisé pour le coup.
Il y a qui à vos côtés parce que bon Jean-Marc vous l'avez dit vous codez historiquement vous avez fait du code donc vous savez même avec le vibe coding même avec l'aide de l'IA pour coder vous savez quand même ce que vous avez devant les yeux quand vous voyez apparaître des lignes de code mais vous avez qui à vos côtés d'un point de vue technique dans cette équipe et dans ce petit groupe qui fait de l'IA en masse.
On a la DSI, bien entendu, hein, qui nous accompagne hein, pour l'aspect un petit peu infrastructure et puis serveur, puisqu'on fait beaucoup de tests. On a un chargé de mission dédié à l'innovation numérique. On a aussi des personnes qui sont en charge de la médiation numérique. On a un médiateur numérique, une personne qui accompagne sur d'autres sujets qu'il y a, les utilisateurs, les agents. On a un Scrum Master, comme je vous l'ai dit, qui est un animateur d'un autre service. On a quelqu'un qui est en charge de ce qu'on appelle la collectivité de l'innovation au sein de la ville, donc qui est plutôt branché innovation. Mais j'ai aussi, par exemple, le directeur de la piscine, qui lui est très, très, très branché IA et qui, du coup, apporte le regard service opérationnel. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis prochainement, on va peut-être intégrer aussi une autre personne qui est en charge de l'événementiel. Enfin voilà, on essaie d'aller chercher des compétences un peu pluridisciplinaires. À partir du moment où elles sont vraiment intéressées ou elles utilisent l'IA, elles apportent un regard voilà, qui est hyper intéressant.
Est-ce que vous trouvez qu'avec l'IA générative notamment, on a trouvé un espèce de dénominateur commun numérique, un peu trans-équipe et trans-organisation, qu'on n'avait pas finalement jusque-là sur le numérique, où c'était quand même compliqué parfois de faire rentrer certains métiers dans une démarche. Est-ce que c'est plus facile?
Ouais, c'est vraiment une bonne remarque. C'est vrai qu'effectivement, l'IA, elle vient traverser. Et moi, je le dis toujours à tous les gens avec qui j'en parle, l'IA, elle bouleverse tous les métiers, elle transforme tous les services, toutes les directions. Et ça devient effectivement un dénominateur commun qui est en train de s'installer un petit peu comme l'informatique, en fait, au sens large. En fait, hein. C'est ou comme Internet. Voilà, enfin, de toute façon, il y a trois grandes révolutions et elles sont là, en fait. Hein. Internet, l'informatique et l'IA. Et donc oui, ça crée un lien qui est vachement intéressant, en fait. Oui, vous avez raison.
Rentrons dans le détail là, des outils que vous utilisez, parce que là, vous avez des particularités. Bon, vous utilisez des outils sur étagère, sous licence. Vous avez dit Mistral c'était quoi le deuxième?
Cloud.
Et Cloud, bien sûr. Ouais. Dans ce cas-là, vous les achetez comment, par exemple, ces licences-là? Parce que c'est compliqué en collectivité d'acheter un SaaS, d'acheter une solution as a service, d'acheter une solution hébergée. Comment vous l'achetez, cette solution? Comment vous prenez une licence?
Alors, dans les collectivités, il y a la possibilité d'avoir une carte bleue. Ça se négocie avec le Trésor public et les régisseurs en interne. Donc moi, dans ma collectivité, ça fait déjà plusieurs années hein, qu'on a cette chance. Il y a beaucoup de collectivités hein, qui commencent à se poser de cartes bleues aujourd'hui. Ça demande une rigueur dans la gestion, mais c'est tout à fait faisable. Et une fois qu'on l'a, après, on peut faire n'importe quel achat effectivement sur le web et on peut acheter des licences SaaS comme on l'a fait nous pour Claude. On est principalement sur cette IA-là aujourd'hui.
Et c'est souvent d'ailleurs les services de com qui arrivent à avoir cette CB. Donc c'est aussi l'avantage que vous avez d'être côté com. Et du coup, donc dans les outils que vous utilisez, vous avez la particularité aussi d'avoir monté votre propre serveur et d'être quand même très orienté open source.
Alors oui, parce que dans notre charte en fait de l'IA dont on a parlé tout à l'heure, on a trois grands piliers. Le premier, c'est la souveraineté. Le deuxième, c'est la sobriété. Et le troisième, c'est l'utilité. Donc, notre objectif, c'est que quand on fait de l'IA, il faut que ça s'inscrive dans ce triangle. La souveraineté, pour avoir un petit peu étudié les choses, elle est quand même vachement compliquée, elle est complexe. Quand on utilise des outils américains, quand on commence à étudier un petit peu le Cloud Act et puis l'extraterritorialité du droit américain, on se rend bien vite compte que c'est pas évident, en fait, la souveraineté. Du coup, on s'est dit, aujourd'hui, il y a des outils open source, on a des éditeurs d'IA qui nous donnent la chance de pouvoir tester des LLM en licence ouverte, dont Mistral. On s'est dit, mais pourquoi on n'essaierait pas? Voilà, lançons-nous, challengeons-nous dans un sprint, et pourquoi on n'essaierait pas de monter notre propre serveur d'IA pour voir un petit peu ce que ça donne?
Concrètement, ça veut dire un serveur quelque part?
Oui, tout à fait. On a un serveur. Alors, on n'a pas acheté de machine parce que acheter une machine, ça représente, c'est acheter une carte graphique.
Hein, bien sûr.
Aujourd'hui, une carte graphique, c'est 50 000, 60 000 euros. Enfin, bon, c'est des coûts délirants. Et en plus, avec une obsolescence qui est, à mon avis, assez rapide. Donc, pour l'instant, on est en mode, externalisé dans le cloud où on a un serveur avec une GPU, une carte graphique, qui est suffisamment puissante pour héberger, alors, non pas un large language model, non pas une IA large, mais un small. Un petit modèle de langage, et en l'occurrence c'est Mistral Small 3.2, voilà, pour être très précis, qui est en licence ouverte et qu'on a installé sur une carte graphique, sur une machine distante, et qui tourne vachement bien.
Et auquel vous avez du coup associé une interface pour arriver à l'interroger particulière.
Tout à fait. On a rajouté à ça une brique, donc open source, un client qui ressemble à un chat GPT. Et ce client, on l'a installé pour le coup dans le réseau de notre collectivité. Et ce client, c'est Open Web UI, voilà, qui est en fait un client chatbot qui est très très avec une communauté très active, avec une possibilité de personnalisation qui est, un potentiel qui est incroyable en termes de personnalisation. Et aujourd'hui, on a ce client Open Web UI qui donc est connecté à notre Mistral Small à distance, mais qui nous permet aussi d'aller interroger aussi du cloud ou du Mistral via API.
Oui.
Donc, notre objectif, c'est de nous soustraire complètement des abonnements pour avoir une solution, une entrée unique via cet outil Open Web UI qui nous permette à la fois d'aller par défaut interroger notre Mistral Small qui est souverain, totalement souverain, et puis pour certains utilisateurs, peut-être de leur donner accès à la demande à un cloud quand ils ont des besoins plus spécifiques, parce que un petit modèle de langage ne peut pas tout faire, bien entendu. Il a cet avantage d'être sobre, mais il ne peut pas tout faire.
Donc vous habituez vos testeurs à une interface, et derrière vous pouvez interchanger les modèles, en l'occurrence un Mistral Small vraiment hébergé où vous savez exactement où est-ce qu'il est et comment il fonctionne, et puis éventuellement d'autres modèles sous d'autres licences connectées également. Combien il y a de testeurs aujourd'hui de cette interface LLM, cette interface modèle?
Alors aujourd'hui, donc on a ouvert le testing au mois d'avril, et on a 70 testeurs, ville et aglo, qui promptent tous les jours. Je regardais encore hier, il y a eu plus de 2000 prompts qui ont été réalisés. Enfin voilà, il y en a qui l'utilisent. Il y a trois catégories d'utilisateurs, et c'est intéressant parce que quand on a une interface comme ça, quand on internalise les choses comme ça, on peut avoir des statistiques et on peut se rendre compte des usages. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est plus opaque. Et je vois moi trois catégories d'utilisateurs. Il y a les très actifs, il y a ceux qui sont très peu actifs, et puis il y a un peu un ventre mou de gens qui de temps en temps viennent l'utiliser.
Mais
je me demande si c'est pas si c'est pas comme ça aujourd'hui que ça se passe.
Et aujourd'hui, ils peuvent rajouter leurs propres documents ou données au prompt pour que la réponse soit peut-être plus précise. Ça aussi vous le gérez en interne, cette capacité à pouvoir accéder aux données des agents.
Exactement, et ça c'est un des vrais enjeux, parce qu'en fait brancher une IA sur une interface client qui est ChatGPT, c'est une chose. Mais le plus important, c'est le contexte et c'est la donnée qu'on va donner à l'IA. Et là, nous, on est en train de plonger dans l'univers de ce qu'on appelle le RAG, qui l'analyse de la donnée et la donnée contextuelle qu'on va donner en fait à l'IA. Et on est en train de travailler sur des briques open source qui permettent, par exemple, quand je mets un PDF dans mon outil, qui va extraire le PDF, qui va peut-être lire les images dans le PDF, qui va tout traduire en texte et qui va tout bien découper de manière propre pour que ensuite notre Mistral Small puisse bien interpréter la demande. Et ça, c'est vraiment très important, parce que si on ne fait pas ce travail-là, les pièces jointes, elles sont mal interprétées et du coup, les réponses de l'IA sont mauvaises.
On essaiera de mettre les références de vos différents composants open source en pied de cette émission, comme ça on pourra donner effectivement envie d'aller voir et d'aller aussi tester ces éléments-là. Et puis du coup, il y a aussi ce qu'on disait, l'accompagnement général des agents de la collectivité. Comment vous faites l'accompagnement finalement à tous ces outils, alors pour les testeurs et puis pour plus large, j'ai l'impression aussi.
Eh bien, on a fait déjà deux séminaires pour essayer d'avoir un discours un peu global et de recueillir un peu les avis, où on a eu à chaque fois plus d'une centaine, voire 150 personnes, donc c'est 10% de nos effectifs, ce qui est beaucoup pour nous, donc ça veut dire qu'il y a un vrai engouement, une vraie attente. Et puis là, à partir de la rentrée, on va mettre en place ce qu'on a appelé des cafés IA, c'est des petits formats de 2 heures, où en fait les gens voilà pourront venir et puis pourront poser toutes leurs questions et nous on leur amènera aussi des réponses bien entendu sur c'est quoi un prompt, c'est quoi notre l'outil interne que l'on va ouvrir. Donc l'accompagnement il est vraiment important et quand bien même demain on déciderait de ne plus faire notre chatbot interne et de ne plus faire de quelque chose de souverain, on garderait cet accompagnement puisque de toute façon l'IA elle est là et elle est là maintenant, elle est installée. Donc il faut qu'on apprenne aux agents à prompter, à utiliser, à comprendre ce que c'est qu'une hallucination, pourquoi l'IA répond mal, parce qu'elle répond souvent mal. Il y a vraiment un gros effort de sensibilisation et de pédagogie à faire et ça c'est prévu en fait là à partir de la rentrée via ce format café IA.
De manière quantitative, vous avez une cible de combien de personnes à peu près?
Là, jusqu'à la fin de l'année, on veut essayer à peu près de former, enfin d'accompagner 200 personnes, sachant qu'on a 1100 personnes informatisées dans notre collectivité. Donc, c'est que le début.
Un bon cinquième, quoi.
Ouais.
Et du coup, on peut imaginer que c'est une vraie aventure humaine, en fait, aussi. C'est une aventure technique. On voit bien, hein, vous utilisez beaucoup d'open source, mais c'est aussi une vraie aventure humaine avec une équipe projet qui doit être très soudée autour de ces projets. Qu'est-ce que vous retirez, finalement, de cette aventure humaine de se lancer dans le test de l'IA?
Voilà, énormément de choses. C'est-à-dire que, oui, effectivement, beaucoup d'échanges avec des gens avec qui j'aurais jamais échangé. Donc ça, c'est, et puis, avec, par exemple, le directeur de la piscine, on travaille sur des sujets communication, mais là, on travaille sur toute autre chose et c'est intéressant parce qu'on découvre de nouvelles manières de collaborer. Avec des hauts et des bas très très forts parce que on a parfois des grands espoirs et puis parfois des grandes déceptions parce que l'open source c'est pas évident hein, ça demande beaucoup d'investissement. Ce que je retiens aussi c'est qu'on monte tous en compétences collectivement sur le sujet. C'est une vraie aventure, on a vraiment l'impression de défricher des choses et puis cette méthode Scrum en fait qui est vraiment incroyable que moi j'ai découvert à 49 ans et qui nous lie en fait, qui nous soude. Et c'est vraiment cette méthode est vraiment géniale en tout cas pour travailler sur l'IA. Donc moi je retiens une découverte de méthode et puis tout ça quoi. Ouais.
Et vous avez vu des révélations des gens qui étaient plutôt sceptiques tout d'un coup devenir des fanas complets des outils potentiellement et des gens qui sont convaincus qu'il y a quelque chose à faire avec l'IA.
Oui, bien sûr. Après il y a plusieurs types de réticences. Il y a la réticence environnementale. Oui. Donc là, nous, on apporte une réponse avec notre Mistral Small parce qu'on a pu mesurer l'impact écologique vu qu'on le sait, on sait exactement sur quelle machine il tourne. Mmh. Et on peut dire notre outil-là, il a tel impact. Donc du coup, ça rassure aussi les gens parce qu'ils voient bien que l'impact, il n'est pas énorme. En l'occurrence, c'est un vol aller-retour Paris-Marseille par an, l'impact de la machine en équivalent carbone. Donc ça rassure. Et après, il y a un autre type de réticence, c'est des gens qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin. On pense que c'est un peu, pas une blague, mais que ça sert pas à grand chose et qui ont peut-être peur un petit peu que ça les remplace d'une certaine manière, de manière inconsciente. Donc là, eux, je pense qu'ils y viendront tout doucement parce que, enfin, le sujet, c'est pas de remplacer l'humain, bien entendu. C'est de travailler différemment, je pense.
Donc, comme je vous le disais en introduction, hein, l'idée de ces épisodes qui viennent à la rencontre des collectivités qui testent, c'est un petit peu de faire en sorte de donner envie à d'autres collectivités d'y aller. Ça serait quoi votre conseil finalement à une autre collectivité quel message que vous voulez faire passer depuis Annemasse sur l'usage de l'IA en collectivité?
Je pense qu'il ne faut pas s'appuyer. Enfin, moi, mon conseil, ça serait de ne pas s'appuyer que sur de la prestation externe. Certains vont peut-être bondir en entendant ça, mais je pense qu'il est nécessaire sur l'intelligence artificielle de monter en compétences en interne pour comprendre de quoi on parle. Pour mieux savoir ensuite peut-être acheter des choses. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire en interne. Mais si on ne comprend pas comment fonctionne un minimum l'intelligence artificielle générative, à ce moment-là, moi, je crains qu'il y ait des déploiements anarchiques ou que certaines solutions soient achetées, mais qu'en fait, ça ne corresponde à aucun besoin. Et puis, je pense que c'est plus qu'un sujet informatique. C'est vraiment un sujet de transformation du travail. Et donc, il faut s'en emparer. Et c'est vraiment une belle aventure.
Bah écoutez, on va justement conclure sur ces mots. Merci beaucoup Jean-Marc d'être venu partager vos expériences et vos tests sur l'usage de l'IA dans votre collectivité. Merci beaucoup et bonne route à l'IA à Annemasse.
Merci beaucoup, Jean-Philippe.
Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Vous, comme vous le savez désormais, vous avez un grand pouvoir, un impact énorme sur la diffusion de cette émission, avec un petit like et un petit commentaire sur les réseaux sociaux. Cela nous emmène plus loin. Alors n'oubliez pas de liker cet épisode et de manipuler les algorithmes avec ces petits gestes. C'est une manière de nous récompenser de notre travail. Ça partage les contenus plus loin et ça nous fait très plaisir, en plus de lire vos commentaires des fois sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est donc le début de la saison 3 de Parlez-moi d'IA. Notre collectif continue de s'agrandir. Nous avons des projets de rencontres en présentiel. Alors si vous voulez participer à cette aventure, si vous êtes intéressé pour apprendre, pourquoi pas fabriquer une émission de radio ou un podcast, si vous voulez nous accompagner dans ces futurs événements, si vous voulez participer tout simplement au partage des bonnes ressources sur le sujet de l'IA, n'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre l'équipe. Suivez-nous sur LinkedIn pour être tenu au courant. Et bien entendu, restez sur le 93.1 FM sur Cause Commune et on se dit à très bientôt.